Jacques Dupin.
Il y a quand même dans chaque texte sur l'art quelque chose qui est un autoportrait de lui-même. C'est lui en face de ce tableau ou en face de cet artiste. Et il est toujours présent avec ses préoccupations, ses fantasmes. Et c'est pour ça qu'il est allé vers Bacon ou Giacometti, parce qu'il retrouvait là quelque chose qu'il avait en qui portait. Enfin, c'est une autre façon de le dire, c'est peut-être plus détourné, qui est de d'écrire sur une œuvre que d'écrire sur rien, sur une page blanche, en faisant appel simplement à sa mémoire.
Dresser des pierres votives, matérialiser des expériences, donner une consistance durable à ce qu'il y a d'insaisissable et de fugace dans n'importe quel fait, fixer des réalités par des moyens qui empruntent au naturalisme, quand il le faut, l'indispensable pour convaincre, mais rien de plus. Telle apparaît en gros l'activité de Giacometti, qui semble avoir choisi comme façon la plus constante de s'exprimer un art à trois dimensions, parce que c'est dans un tel art qu'il est le plus difficile de s'en sortir, sans tricherie. Alors qu'une sculpture est d'ordinaire, à l'inverse du canon ou trou que circonscrit du bronze, un objet avec de l'espace autour, Giacometti se préoccupe aujourd'hui de fabriquer de l'espace contenant un ou plusieurs objets. Après les solides bien polis du début, stèles ou galets longuement délavés qui sont tout ce qui reste de la perception d'un corps vivant, après les constructions à claire-voie et les jeux qui se refusent à être des obturateurs d'espace, sont venues les figurines à gabarit d'épingle et les figures plus grandes, mais toujours minces, images de la station verticale, minime prolifération de structures humaines autour d'un fil à plomb. Entre le géologique et l'aérien, la surface mitoyenne. Problème de la présence réelle, posé et résolu par Giacometti, alors que ce problème semble avoir échappé à presque tous nos sculpteurs, purs architectes ou fabricants de mannequins que leur bourrage n'empêche pas d'être absent. De même, c'est moins à représenter leur modèle qu'à leur permettre d'être là, quitte à laisser plus tard leur figure se réduire en poussière, que visent les sculpteurs nègres.
Giacometti et Léris, ils ont dû se rencontrer aussi à l'époque surréaliste, n'est-ce pas? Et ils étaient très amis depuis toute leur vie, enfin, on peut dire. Et qu'est-ce qui les rapprochait? Je crois que c'est d'abord parce que la peinture et les dessins de Giacometti c'était assez rapproché de la façon dont Léris travaillait, qui était de s'approcher de quelque chose, d'une vérité, sans jamais l'avoir trouvée. Le contraire de Picasso, qui lui trouvait sans chercher. Giacometti cherchait sans trouver. Et on peut dire ça aussi de Léris, quelque part. Hein, il avait besoin d'écrire et de revenir, et toujours sur les mêmes thèmes et sur les mêmes phrases, parce que c'est une insatisfaction profonde, et qui était tout à fait celle d'Alberto Giacometti. Et puis, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a écrit assez souvent sur Giacometti, et Giacometti a fait des portraits de Michel Léris. Même un livre assez tragique que vous avez pu voir, qui s'appelle Vivante, Cendres innommées, et qui était un livre que Léris a écrit après une tentative de suicide. Et les illustrations de Giacometti, qui est un peintre réaliste d'abord, c'était l'appartement de Léris sur son lit, la tête, la bouche ouverte, enfin, ce qui voit le plafond de la chambre où on voit ce que voyait Léris étant couché, c'est terrible ça. Il y a beaucoup de gravures, il y a une cinquantaine de gravures. Ce livre. Oui, on peut parler, c'est-à-dire que l'un et l'autre étant des êtres très pudiques, on ne peut pas dire fraternité, mais c'est vraiment des liens si étroits que je n'hésiterai pas à employer le mot si. Si je ne voyais pas derrière mon épaule l'œil de Léris ou celui de Giacometti me le reprochait.
Vous les avez vus ensemble?
Oui, bien sûr, souvent, oui. Chez Giacometti, c'était d'abord, il était à Paris, il avait un atelier ouvert à tout le monde, et on pouvait donc entrer et aller à deux, à trois, et il continuait de travailler, on continuait de parler, ça ne le gênait absolument pas, la porte était ouverte, et alors, c'était aussi fatal que même au hasard des jours et des semaines, on rencontre quelqu'un comme Léris ou Genet ou d'autres, enfin cette porte c'était ouvert. Et Giacometti adorait ça, le contact comme ça, parler. Ce qui se passait aussi avec les artistes, c'est que, je ne sais pas pour certains, mais c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, Michel Léris. Alors avec Giacometti, il parlait tout le temps. Mais avec Miro, ils ne se parlaient pas, ni l'un ni l'autre. Ils restaient des heures comme ça à échanger quelques mots, mais sans vraiment engager une conversation très, très serrée. Parce que ni l'un ni l'autre ne s'engageait.
Vous parlez d'affinité. Là où les affinités apparaissent presque de façon visible, c'est entre lui et Francis Bacon. Et en particulier, bon, il y a plusieurs portraits de Michel Léris par Francis Bacon qui sont étonnamment vivant. Enfin, on a l'impression que l'art et la manière de Francis Bacon est particulièrement bien adapté au physique de Michel Léris. À son physique.
Non, oui, je comprends bien ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Les portraits sont très ressemblants tout en étant très baconiens, hein, très, très déformés. C'est les meilleurs portraits, je crois, de Léris qu'on peut imaginer, qui ont été réalisés, parce que presque tous ces artistes ont fait des portraits de Léris, finalement. Mais c'est peut-être ceux de Bacon, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a trois à ma connaissance. Quoi. Ils sont vraiment très, 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 très ressemblants, tout en étant pur baconien, hein, sans aucune... Bon, parce que peut-être la morphologie de la tête de Léris aussi s'y prête. C'est vrai qu'il avait déjà un visage assez... assez marqué, enfin. Et puis, entre eux, il y avait vraiment une grande affection jusqu'à la fin. Et c'est pas étonnant non plus qu'il y ait eu cette rencontre dans ces trois portraits, comme dans les textes de Michel, à propos sur Bacon, qui sont merveilleux. Et il en a quand même fait pas mal, je crois, peut-être six. Et chaque fois, il se renouvelle, il trouve une autre façon d'aborder le problème Bacon. Et c'est tout à fait... admirable, ces textes.
Tension. Il semble que cette notion puisse servir de fil conducteur à quiconque veut déceler sur quoi repose l'extraordinaire pouvoir d'envoûtement dont sont douées les œuvres et la personne de Bacon. Recherche plus ou moins expresse d'un comble de tension. Sans doute est-ce à cela que répond l'œuvre entière de Bacon. Aussi bien comme auteur de grandes compositions, qui sont bien moins des scènes sur quoi pourrait se broder un récit, que des confrontations d'êtres et de choses qui nous frappent de leur présence et ne font guère qu'être là, sans qu'il se passe entre eux quoi que ce soit qui réponde à un scénario tant soit peu anecdotique, hormis, parmi quelques autres formes de lutte ou d'étreinte, la copulation qui réunit souvent deux de ces êtres, fondue alors en un même et indivisible motif par l'amour, autrement dit par ce qui est la tension et l'ambiguïté même. Ce peintre, qui se veut rien que peintre, et peut-être sculpteur, ainsi qu'il dit y songer, mais qui ne saurait se contenter d'être un brillant manipulateur de couleurs et de formes que n'animerait aucun démon. Ce peintre qui se défend de dramatiser, mais à qui, sans qu'il vise à autre chose qu'à une certaine immédiateté, le tragique saute constamment à la gorge, aboutit à des créations d'autant plus saisissantes que tout appel du pied, discours lyrique, manège démagogique dans un sens ou dans l'autre, en est absent. Création pantelante, parfois grinçante, toujours tendue jusqu'à l'écartèlement, et dont il est visible pour chacune que sa cohérence est le résultat arraché de justesse et précaire, dirait-on, mais qui n'en est que plus vivant, d'une empoignade positive entre intelligence et impulsion, flegme et frénésie, mesure et démesure.
Ce qui est tout à fait précis chez lui... Et admirable, c'est sa fidélité à six artistes qu'il a connus très tôt et qu'il a accompagnés toute sa vie, et sur lesquels il a écrit, avec lesquels il a fait des livres illustrés, et avec lesquels il avait une amitié comme ça tout à fait profonde. Et il n'y en a pas sept, à mon avis, il y en a six. Et celui qui est venu le dernier, c'est Bacon. Il l'a rencontré, évidemment, beaucoup plus tard que Picasso, Miro ou Giacometti. Mais c'est le dernier de la liste. Et, il n'a jamais dévié d'une ligne extrêmement stricte et fidèle, que je ne connais, que personne d'autre n'a jamais fait, parce que les écrivains avec les peintres, en général, ils s'égarent ou ils vont vers les uns, vers les autres, ils changent, etc. Mais cette rigueur, c'est la rigueur de Léris dans ses écrits et dans sa vie, ça aussi.
Et dans ses choix.
Et dans ses choix, en matière de peinture ou de sculpture, c'est troublant, hein, c'est rare, enfin, unique, je peux te dire.
Alors, certains de ses choix le reflètent beaucoup, comme par exemple Bacon. En ce qui concerne Picasso, là aussi, c'est un peintre que vous connaissez et que vous avez connu également. De quelle nature était leur relation ?
C'était des vieux amis depuis probablement 50 ans. Ils ont dû se rencontrer dans les années 20, je suppose. Picasso étant un artiste qui travaillait avec Can Veller, qui était un parent très proche de Léris, ils se sont rencontrés et ils ont eu une amitié très, très étroite pendant, je ne sais pas, depuis les années 20 jusqu'à la mort de Picasso. Et puis ils étaient aussi sans doute proches par leur passion commune pour la tauromachie.
Alors, je suis devenu aficionado par Picasso. Masson, c'est seulement après. En fait, Masson, comme vous le savez, a peint un certain nombre de tauromachies. Il a illustré mon livre Miroir de la tauromachie. J'ai moi-même fait un poème pour accompagner un livre, on peut dire, une plaquette de lui qui s'appelle Toro, T-O-R-O. Nous avons été très proches, très très proches à cet égard. Mais cependant, ce qui est amusant, je ne me rappelle pas avoir assisté à une seule corrida avec Masson. Ça se trouve comme ça. Enfin, nous aurions pu.
Dans les dessins et les lithographies, où Picasso a l'air de s'être fait l'historiographe de ses propres thèmes, qui sont l'expression de sa vie, et pour qui le temps coule comme il coule pour lui, on est frappé par l'abondance des personnages masqués, en lesquels se retrouve l'idée souveraine de la métamorphose, mais sous une forme dérisoire. Le déguisement qui se laisse reconnaître pour tel peut-il être autre chose que la caricature d'un miracle, une tentative avortée de se faire autre que ce qu'on est en vérité. Celui qu'on prend ainsi la main dans le sac, loin d'être un personnage tragique, n'est-il pas, par définition, un imposteur ou un bouffon qui relève de la comédie? Déjà dans le ballet Parade, au Pégase du rideau succédait sur la scène, comme pour fournir une réplique clownesque au quadrupède mythique, un grotesque cheval dont les quatre jambes étaient celles réunies de deux danseurs. Et dans la suite de planches de ces dernières années représentant des scènes de chevalerie, quelques-uns des seigneurs ne montent que des simulacres de chevaux caparaçonnés qui sont des pages déguisées. Il semblerait que Picasso n'ait jamais ignoré qu'un mythe a pour destin de virer tôt ou tard au conte de bonne femme. Qu'il n'y a guère de cérémonie qui ne soit aussi carnaval et que le merveilleux va nécessairement de pair avec la charlatanerie. Aspect blanc et aspect noir de la métamorphose, exprimé par le saltimbanque, qui, par ses tours et son costume, touche au surnaturel, mais en même temps n'est que chien-lit.
Lirez le strict de la façon dont le taureau doit être combattu et mis à mort, ces règles
sont à la fois des règles techniques et on peut dire des règles stylistiques. C'est en même temps de ça que dépend enfin toute l'ordonnance de la course, enfin cette très belle ordonnance en trois parties, enfin tout ce qu'il y a de plus classique, avec le tertio des pics au début, les banderilles qui représentent quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus gracieux ensuite, et puis la vraie tragédie qui intervient à la fin avec la mise à mort.
Masson raconte volontiers que, par exemple, avec Bataille, ils aimaient beaucoup faire se télescoper, comme il disait, l'érotisme et la tauromachie.
Oui, mais alors là, on est dans le pur imaginaire. Attendez, je vais vous lire une phrase.
Florence Delay.
Ça se trouve dans L'amour et la tauromachie. Il cultive donc sa passe entre le taureau et le torero jusqu'au vertige érotique. Et voilà ce que je trouve quand même fort de café. C'est alors que l'ovation du public éclate et couronne le tout, telle la détente de la jouissance. Et sans doute serait-on fondé à parler, au sens admis autant qu'au sens le plus trivial du mot, de l'ovation comme d'une décharge, baisse du potentiel nerveux, pareil à une tombée de fièvre, en même temps qu'éjaculation qui a pour sperme les bravos. Écoutez, alors là, c'est de l'ordre de la création pure quand même. Parce que c'est donc un troisième terme qui jouit à la place du torero et du taureau. Et là, c'est le miracle de la littérature, quand même, qui a pour sperme les bravos. De penser que les bravos sont le sperme. On est dans la pure création.
Du côté du public, ce troisième partenaire aussi indispensable que le sont des spectateurs, neutres ou non, à une vraie orgie, exhalation du Olé, qui accompagne la passe, crie non de la bouche, mais de la chair entière, semblable à celui d'une femme en proie aux affres de la jouissance. Tout à fait au dehors, raccrochage flamboyant des affiches, sur lesquelles il suffit d'un peu de rouge et de mots tels que « toros en cadiz » pour qu'on se sente happé comme par une suite de lettres lumineuses lues au fronton d'un mauvais lieu. Olé! Olé! Ondes s'irradiant autour du point de frôlement de l'homme et de la bête, comme les ondes de douleur autour de la blessure du taureau.
Je mène ma quête sur les deux olé, c'est-à-dire olé et olé. Et il y a deux façons d'accompagner la passe, comme dirait Léris, et avec une accentuation différente. Et mes amis, les vrais aficionados, me l'expliquent et je l'oublie tout le temps. Comment expliquez-vous ça? J'oublie tout le temps la différence entre les deux.
Toro et torero, engrené comme un jeu de bielle. Luttant à qui fera tomber l'autre dans la fosse invisible qui est le pivot de l'arène. Le torero, droit comme un cri. Tout près de lui, le souffle. Et tout autour, la rumeur. Passes enchaînées comme les divers moments d'une fugue. Cap, dont les replis, déplis et tournoiements miment les volutes de l'hôtel majeur à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cap concave qui s'enfle en orgue de cathédrale, voltige par-dessus l'échine et les cornes friables, s'humilie jusqu'à glaner au sol de brunes éclaboussures. Mer des souffles brûlants.
Mais il y a une chose aussi qui lui plaît, et qui n'est pas érotique. Ça pourrait relever de l'esprit de géométrie, je veux dire, c'est quand, finalement, il insiste plusieurs fois, il revient là-dessus, le fait de recevoir la bête sans bouger les pieds. Vous remarquez comme ça l'intéresse beaucoup, finalement, le pivot du torero. Le fait qu'il ne bouge pas son assise, finalement. Rivera à Bayonne, commençant avec une stupéfiante tranquillité, pied absolument joint et fixe, la faena de son premier. Levant lentement la muleta en chapeau, comme pour saluer simplement le passage du taureau. Là, il dit, c'est stupéfiant. Bon, c'est stupéfiant, ça n'est pas érotique. Donc finalement, moi je crois que ce fameux Eros, il est vraiment à la fin des 15 minutes, enfin dans ce dernier moment. Enfin, je n'en sais rien, mais il me semble que les autres ne relèvent pas de cela, les autres tertiaires.